Je n'ai jamais revu Fripman. Il n'est pas rentré au village. Barentsburg, le cantonnier, a inscrit son nom sur le monument. Contrairement au mien, il n'a pas eu à l'effacer. Emilia et Fédorine sont restées seules dans la maison. Le village les évitait, comme si soudain, elles avaient eu une sorte de peste. Diodème fut le seul à se préoccuper d'elles, par amitié et par honte, comme je l'ai dit. Toujours est-il qu'il s'en est occupé. On ne commandait presque plus à Emilia de trousseaux, de napperons, de rideaux, de mouchoirs. N'ayant plus de broderie à effectuer, elle n'en est pas pour autant restée sans rien faire. Il fallait bien se nourrir, se chauffer. Je lui avais montré tout ce que les bois et tout ce que les chaumes pouvaient apporter aux hommes. Branches, souches, baies, champignons, herbes, salades sauvages. Fédorine lui apprit les façons de piéger les oiseaux à la glu et au fil, de prendre au collet les lapins, d'attirer les écureuils au bas des grands sapins et de les assommer d'un jet de pierre. Elle ne mourait pas de faim. Chaque jour, Emilia notait dans un petit cahier que j'ai retrouvé quelques phrases qui m'étaient destinées. C'étaient toujours des phrases simples et douces, qui parlaient de moi, qui parlaient d'elle, qui parlaient de nous comme si j'allais revenir l'instant suivant. Elle racontait sa journée en commençant toujours par les mêmes mots. « Mon petit Brodeck ». Il n'y avait aucune aigreur dans ses propos. Elle ne parlait pas des Fratergekeim. Je suis certain qu'elle le faisait exprès. C'était une belle façon de nier leur existence. Ce cahier, je l'ai toujours, bien sûr. J'en relis souvent des passages. C'est un long et émouvant déroulé des jours de l'absence. C'est notre histoire, à Emilia et à moi. Ce sont des mots de lumière qui font contrepoint à tous mes pans de ténèbres. Je veux les garder pour moi seul, comme la dernière trace de la voix d'Emilia avant son entrée dans la nuit. Archfir ne se déplaça pas pour les visiter. Il leur fit livrer un jour un demi-cochon qu'elles trouvèrent un matin devant la porte. Piper vint les voir deux ou trois fois, mais Fédorine le supportait mal, car il restait des heures près du poêle à vider la bouteille de prune qu'elle sortait pour lui, tout en tenant des propos de plus en plus confus. Elle finit même un soir par le chasser à coups de balai. Adolf Buller et sa troupe occupaient toujours le village. Une semaine après notre arrestation à Fripman et à moi, il avait donné enfin l'autorisation d'enterrer Cator. Celui-ci n'avait aucune famille, à part Beckenfur, qui avait marié sa sœur. C'est lui qui se chargea de la besogne.
« Une saloperie, Brodeck. Pas beau. Vraiment pas beau. Sa tête était grosse, de deux fois sa taille. Un drôle de ballon, avec la peau noire et éclatée. Et puis le reste, mon Dieu, n'en parlons plus. »
À part cette exécution et notre arrestation, les Fratergekeim se comportaient le plus civilement du monde avec la population, si bien que les deux événements furent vite oubliés, ou plutôt, les gens firent tout pour les oublier. C'est dans ces moments que Goebbler revint au village avec sa grosse femme. Il occupa de nouveau sa maison, qu'il avait quittée 15 ans plus tôt, et fut accueilli à bras ouverts par tout le village, et en particulier par Orchvir, les deux étant conscrits. C'est sur les conseils de Goebbler, je serais prêt à le jurer, que le village, peu à peu, bascula. Il fit remarquer à tous combien il était avantageux d'être ainsi occupé par la troupe, que celle-ci n'avait rien d'hostile, que bien au contraire, elle garantissait la paix et la sécurité, et faisait du village et de sa région une zone épargnée par les massacres. Par ailleurs, il lui fut facile de convaincre qu'il y allait de l'intérêt de tous que Buller et ses hommes restent le plus longtemps possible au village. Une centaine d'hommes, ça mange, ça boit, ça fume, ça fait laver son linge, ça le fait raccommoder, ça rapporte en fait une quantité d'argent considérable. Goebbler devint une sorte de mère en second, avec l'assentiment de tout le village et la bénédiction d'Orchfir. On le voyait souvent dans la tente de Buller, qui au départ le considéra avec suspicion, puis, comprenant tout le profit qu'il pouvait tirer de cet homme veule et du rapprochement qu'il favorisait, se mit à le traiter presque en camarade. Quant à Boula, ses cuisses s'ouvrirent largement à toute la troupe et elle distribua ses faveurs autant aux gradés qu'aux simples hommes de rang.
Qu'est-ce que tu veux ? On s'était habitué.
C'est Schloss qui me dit cela le jour où il était venu tout pleureur s'asseoir à ma table et me parler.
C'était devenu comme naturel qu'il soit là. Après tout, c'était des hommes comme nous, taillés dans la même viande. On parlait des mêmes choses, dans la même langue, ou peu s'en faut. À force, on les connaissait presque tous par leur prénom. Beaucoup rendaient service aux vieux, d'autres jouaient avec les gosses. Chaque matin, 10 d'entre eux nettoyaient les rues. D'autres s'occupaient des chemins, coupaient du bois, déblayaient les tas de fumier. Le village n'a jamais été aussi propre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Quand ils venaient ici, je remplissais les verres. J'allais pas leur cracher à la gueule. Et puis tu crois qu'il y en avait beaucoup qui avaient envie de finir comme Cator ou de s'évaporer comme toi et Fripman ?
Les fratères Guckheimer restèrent près de 10 mois dans le village. Il n'y eut aucun incident notable, mais le climat changea durant les dernières semaines. On sut plus tard pourquoi. La guerre muait, et de place, et d'esprit. Comme un feu de printemps, dont la fumée âcre, agitée par le vent, s'affole et change de direction brutalement. Les victoires quittaient un camp pour l'autre. Aucune nouvelle ne parvenait au village. Pour ceux d'ici, s'entend. Maintenu dans l'ignorance, il ne pouvait devenir dangereux, mais Bouleur, quant à lui, savait tout. Et je me plais à songer à son visage ravagé par son tic, de plus en plus fréquemment, à mesure que les missives lui apprenaient la déroute, le désastre, l'effondrement de ce grand territoire qui devait étendre sur le monde son emprise et durer des milliers d'années. La troupe, comme un chien, sentit le désarroi de son chef et devint de plus en plus nerveuse. Les masques tombèrent de nouveau, les vieux réflexes revinrent. Brodschirt, le boucher, fut rossé sous les yeux de Diodème parce qu'il avait plaisanté un caporal à propos de son goût pour les tripes. Limat, qui n'avait pas pris la peine de saluer deux soldats qu'il croisait, fut bousculé et ne dut qu'à l'intervention de Goebbler, qui passait à ce moment, de ne pas recevoir de coups de bâton. Une dizaine d'incidents de ce type firent comprendre à tous que les monstres ne les avaient jamais quittés, mais qu'ils s'étaient tout simplement endormis un instant, et que désormais, leur sommeil ne durerait plus. Alors la peur revint, et avec elle, le désir de la conjurer. Une après-midi, qui devait être en fait celle de la veille du départ de la troupe, des Dafamesh, des hommes du village, qui étaient partis chliter du bois dans la forêt du Barentsfall, découvrirent, près de la clairière du Lichmal, sous une sorte d'amas de branches de sapin disposées pour former une hutte, 3 jeunes filles, affolées, qui se serrèrent les unes contre les autres quand elles les virent arriver. Elles portaient des vêtements qui n'étaient pas de ceux qu'utilisent les paysannes. Leurs chaussures n'avaient rien à voir, elles non plus, avec des sabots ou des brodequins. Elles avaient avec elles une petite valise. Elles venaient de loin, de très loin. Elles avaient fui, sans doute, depuis des semaines, et elles étaient parvenues, Dieu sait comment, dans cette forêt, au milieu de cet univers étrange, dans lequel elles étaient complètement perdues. Les Dafamesh leur donnèrent à manger et à boire. Elles se jetèrent sur la nourriture, comme si elles n'avaient rien avalé depuis des jours. Puis, elles les suivirent jusqu'au village, confiantes. Diodème pense que les hommes ne savaient pas encore, durant le trajet, ce qu'ils allaient faire de ces jeunes filles. Je veux le croire. Toujours est-il qu'ils se sont rendus compte qu'elles étaient des fremdeurs et que chaque pas, chaque mètre fait sur le sentier qui les rapprochait du village, signait leur sort. Goebbler, je l'ai dit, était devenu un homme important et le seul véritablement qui avait été accepté par le capitaine Bouleur. C'est chez lui que les hommes emmenèrent les jeunes filles. C'est lui qui les convainquit de les livrer au frater Guckheim, afin de se concilier leur bonne grâce, de les calmer, de les apprivoiser tandis qu'elles attendaient devant sa maison, sous une pluie de rue qui s'était mise subitement à tomber. Le ciel se joue de nous. Je me suis souvent dit que sans cette pluie qui s'était mise à cogner fort sur les tuiles, Emilia n'aurait peut-être jamais regardé par la fenêtre. Elle n'aurait alors pas vu les trois jeunes filles trempées, tremblantes, maigres, harassées. Elle ne serait pas sortie pour leur proposer de venir près du feu. Elle ne se serait donc pas trouvée avec elle lorsque les deux soldats, avertis par un des hommes du village, vinrent s'en saisir. Elle n'aurait pas alors protesté. Elle n'aurait pas alors crié comme elle l'a fait, j'en suis sûr, à la face de Goebbler, que ce qu'il faisait était inhumain. Elle ne l'aurait pas giflé. Les soldats ne se seraient pas emparés d'elle. Ils ne l'auraient pas emmenée avec les trois jeunes filles. Elle n'aurait pas alors fait son premier pas dans le gouffre. De la pluie. Simplement de la pluie. De la pluie frappant des tuiles et des vitres. Landerer m'écoutait. De temps à autre, il versait de l'eau chaude dans sa tasse et quelques feuilles de thé. Tout en parlant, je serrais dans mes bras le vieux Liber Florae Montanarum, comme s'il s'était agi d'une personne. Le silence bienveillant de Landerer et son sourire m'encourageaient à poursuivre. Cela m'apaisait de parler de tout cela, pour la première fois, de le dire à cet inconnu, avec sa drôle de tête, avec sa drôle de mise, dans cet endroit qui ressemblait si peu à une chambre. La suite, je la lui ai racontée en peu de mots. Il n'y avait plus rien à dire. Buller et ses hommes levaient le camp. Il régnait sur la place des Halles une fébrilité de troupeaux sous l'orage. Des ordres, des cris, des bouteilles que l'on buvait cul sec et que l'on fracassait contre le sol, des dizaines d'hommes ivres qui riaient, titubaient, s'insultaient, tout cela sous l'œil de Buller. Figé comme un piquet sous l'auvent de sa tente, la tête agitée par son tic dont la fréquence ne cessait d'augmenter. En cet instant paradoxal, les fratères Gekaime étaient encore les maîtres tout en se sachant déjà des perdants. C'étaient des dieux tombés, des seigneurs pressentant qu'ils seraient bientôt dépouillés de leurs armes et de leurs cuirasses. Les pieds encore dans leurs rêves, ils se savaient pendus tête en bas. C'est dans ce tableau qu'arriva le petit cortège des trois jeunes filles et d'Emilia, mené par les Dafemesh et les deux soldats. Très vite, comme on fond sur des proies, elles furent toutes les quatre entourées, bousculées, touchées, palpées. Elles disparurent dans de grands éclats de rire au centre d'un cercle qui se referma sur elles. Un cercle d'hommes avinés et violents qui, sous des mots d'ordure et des plaisanteries, les poussèrent jusqu'à la grange d'Otto Michenbaum, un vieux paysan qui frôlait les 100 ans, n'avait pas engendré de descendance. Hab nicht Zeit gehabt, niemand Zeit gehabt. Je n'ai jamais eu le temps, jamais eu le temps. Et restait dorénavant cloîtré dans sa cuisine. Elles y disparurent. Elles y furent englouties. Et puis, plus rien. Le lendemain, la place était déserte, seulement jonchée d'innombrables morceaux de verre. Les fratères Gekaime étaient partis. Il ne restait d'eux qu'une odeur aigre de vin, d'eau de vie vomie, de bière épaisse répandue en flaques. Toutes les portes des maisons étaient closes. Après cette nuit de nausée durant laquelle des soldats et quelques hommes du village, avec la bénédiction muette de Buller, avaient meurtri des âmes et des chairs, personne n'osait encore sortir. Et à toutes ces portes, Fédorine frappait, frappait, frappait jusqu'au moment où elle parvint à la grange. J'y suis entrée, Brodeck. C'est la vieille Fédorine qui me raconte, tout en me donnant à manger avec une cuillère. Mes mains sont couvertes de plaies. Mes lèvres me font si mal. Mes dents cassées me font si mal. Comme si leur éclat entaillait encore mes gencives. Moi, je viens à peine de revenir. après presque 2 années hors du monde. Je suis sorti du camp. J'ai marché sur les routes et les chemins. Je suis de nouveau là. Mais je suis encore à demi-mort. Je suis si faible. J'ai poussé quelques jours plus tôt la porte de ma maison. J'ai retrouvé Fédorine, qui en me voyant a laissé tomber le grand plat en faïence qu'elle était en train d'essuyer, et dont les motifs de fleurs rouges se sont dispersés aux 4 coins de la pièce. J'ai retrouvé Emilia, plus belle encore, oui, plus belle encore que dans tous mes souvenirs, et ce ne sont pas de vains mots. Emilia, assise près du poêle, et qui, malgré le bruit du plat se brisant, malgré ma voix l'appelant, malgré ma main sur son épaule, n'a pas levé les yeux sur moi, a continué à fredonner une chanson qui m'a soulevé le cœur. Schöner Prinz Olid, zu weit vorgegangen. Cette chanson de notre amour naissant. Et comme je disais son nom, que je le redisais avec la joie immense de la retrouver, que ma main se posait sur son épaule, caressait sa joue, ses cheveux, j'ai vu que ses yeux ne me voyaient pas, et j'ai compris qu'elle ne m'entendait pas. J'ai compris qu'il y avait devant moi le corps et le visage merveilleux d'Emilia, mais que son âme errait quelque part, je ne savais où, dans un lieu inconnu, où je me suis juré d'aller pour l'y reprendre. Et c'est à ce moment précis, à ce moment où je faisais ce serment, que j'ai entendu pour la première fois une petite voix que je ne connaissais pas, une petite voix d'enfant qui venait de notre chambre et qui frottait des syllabes les unes contre les autres comme on frotte des silex pour en faire jaillir le feu. Et cela donnait une mélodie de cascade joyeuse, libre, échevelée, un babil folâtre dont je sais désormais qu'il doit être au plus près de la langue des anges. Je suis entré dans la grange, Brodeck. J'y suis entré. Il y avait un grand silence. Il faisait sombre. J'ai vu des formes allongées, de petites formes, les unes contre les autres, immobiles. Je me suis agenouillé près d'elles. Je connais trop la mort pour ne pas la reconnaître. Il y avait les 3 petites, si jeunes. Elles n'avaient pas 20 ans. Et toutes les 3 avaient les yeux grands ouverts. J'ai fermé leurs paupières. Et il y avait Emilia. C'était la seule à respirer encore, faiblement. Il l'avait laissée pour morte. Mais elle n'avait pas voulu mourir, Brodeck. Elle n'avait pas voulu. Car elle savait qu'un jour tu allais revenir. Elle le savait, Brodeck. Lorsque je suis parvenu près d'elle, que j'ai pris son visage contre mon ventre, elle a commencé à chantonner la chanson qui depuis ne la quitte plus. Je l'ai bercée longtemps. Il ne restait plus d'eau dans le samovar. J'ai posé le Liber Florae à côté de moi, délicatement. Au dehors, il faisait presque nuit. Landerer venait d'ouvrir un peu la fenêtre. Un parfum de résine chaude et d'humus, bien sec, s'engouffra dans la pièce. J'avais parlé longtemps. Pendant des heures, sans doute. Mais il ne m'avait pas interrompu. J'étais sur le point de m'excuser pour avoir ainsi, sans honte et sans permission, ouvert devant lui au plus profond mon cœur lorsqu'un carillon retentit juste dans mon dos. Je me suis retourné brusquement, comme si on avait tiré un coup de feu. C'était une drôle d'horloge, comme on en faisait jadis, de la taille d'une grosse montre et qu'on suspendait dans les temps passés à l'intérieur des carrosses. Je ne l'avais pas remarqué auparavant, avec ses fines aiguilles d'or. Elle marquait 8 heures. Le boîtier était d'ébène et d'or mêlés, et les chiffres des heures, d'émail bleu sur fond d'ivoire. En dessous de l'axe des aiguilles, l'horloger, dont le nom, Benedikt Forstenfelder, était gravé au bas du cadre. avait inscrit une devise, en belles lettres penchées qui s'enlaçaient les unes aux autres. « Alle Vermunden, eine Tott, toute blesse, une tue. » Tout en me levant, je prononçais la devise à haute voix. Landerer s'était levé également. J'avais beaucoup parlé, trop peut-être. Il était temps que je rentre chez moi. J'étais confus. Il ne fallait pas qu'il croie que... Il m'interrompit en levant vivement sa courte main, potelée comme celle d'une femme un peu grasse. « Ne vous excusez pas, » dit-il d'une voix aussi imperceptible qu'un souffle. « Je sais que raconter est un remède sûr. »